Charlemagne, le brie et le roquefort, voilà le titre que j'ai choisi de donner à cette communication, titre qui peut sembler a priori un peu ésotérique. Au pays réputé ingouvernable des 258 ou 365 sortes de fromages, la variété des traditions fromagères est, depuis au moins deux siècles, un motif de fierté et tient une place qui n'est pas négligeable dans les représentations de soi, dans la manière dont les Français pensent leur identité, dans l'identité construite et assumée par les habitants, tout autant que dans celle qui est projetée par les autorités et par les promoteurs du tourisme. Le fromage, qui, à partir d'un même ingrédient de base, se décline en d'innombrables variétés ou saveurs, aux saveurs, aux formes, aux couleurs, pardon, si différentes, le fromage se prête particulièrement bien à ce jeu des identités. Ainsi, les fromages, dans toute leur diversité, occupent une place singulièrement importante dans la manière dont sont mises en scène des identités en particulier régionales. Et ce n'est pas ici en Normandie que l'on dira le contraire, même si certaines régions n'ont pas vu se développer un discours comparable. Je pense par exemple à la Bretagne, qui pourtant est aujourd'hui l'une des principales régions productrices de fromage. D'Emmental, par exemple. L'articulation entre la production fromagère et les identités régionales, voire locales, passe en particulier par le recours à ce que l'on pourrait appeler des mythes fromagers. Mythes dont on peut assez souvent dater l'apparition, en général au cours des deux derniers siècles. En Normandie, on attribue ainsi à Marie Harel, une laitière du début du XIXe siècle, l'invention du camembert, selon un récit topique qui a la vie dure, bien qu'il ait été maintes fois exposé comme parfaitement apocryphe. L'histoire continue à se répandre et à Vimoutiers, dans l'Orne, vous avez aujourd'hui deux statues de Marie Harel, dont l'une a été offerte à la commune par les fromagers de l'Ohio au moment de la reconstruction, et ici c'est évidemment un lieu tout à fait adapté pour en parler. Ces mythes fromagers prétendent souvent que le produit, dans son état actuel, remonterait au Moyen-Âge. Moyen-Âge qui est une période privilégiée dans laquelle un produit du terroir aurait été inventé. Le Moyen-Âge est en effet spontanément associé, dans les représentations courantes, à un avant pré-industriel, plus ou moins bien situé, une période où les choses seraient nées, les choses de la campagne seraient nées. En Savoie, par exemple, un mythe d'origine du reblochon met en avant la ruse des paysans des alpages au XIIIe siècle qui auraient grugé leur seigneur en prélevant, grâce à une double traite, une rebloche, la partie la plus crémeuse du lait. À l'occasion, une date précise est même donnée. Le maroilles, dans le Nord, maroilles récemment promu fromage emblématique de l'identité ch'ti, le maroilles est crédité d'une invention en 960 précisément. Selon les versions, cette invention est due à un moine de l'abbaye de Maroilles ou à l'évêque Enguerrand de Cambrai. Un millénaire du fromage de Maroilles a même été célébré en 1960-1961. Grâce à l'immense force de frappe de la toile, ces mythes se propagent, se répètent. Les mêmes phrases se retrouvent pillées d'un site à l'autre, souvent tirées de Wikipédia ou relayées par Wikipédia. Ces phrases, ces mythes, contribuent à créer un sentiment de profondeur historique, appuyé sur une information abondante et souvent précise, avec des noms, des dates précises, des lieux. Tout cela assoit la légende dans la certitude que confèrent les données exhaustives. Quand les récits sont contradictoires, on n'hésite pas d'ailleurs à les amalgamer. Dans le cas du maroil, on peut raconter, vu qu'il y a un moine et un évêque qui sont l'un et l'autre crédités de cette invention, on peut les faire coexister dans le récit publié en ligne. Alors je vais me pencher aujourd'hui sur deux mythes fromagers, celui du Brie et celui du Roquefort, qui présentent plusieurs caractéristiques communes. D'abord, tous les deux mettent en scène le roi des Francs et empereur Charlemagne, 768-814. Charlemagne qui se retrouve confronté à un ecclésiastique qui l'aurait initié à la dégustation du fromage en question. Ces deux mythes s'appuient sur une particularité du produit. L'épaisse croûte du Brie, d'une part, le bleu du Roquefort, d'autre part, peuvent a priori rebuter le consommateur non averti. L'amateur, en revanche, les mange avec plaisir et considère même que cette spécificité fait le fromage lui-même, que l'identité même du fromage est liée à cette spécificité. Dans un cas comme dans l'autre, dans le mythe, l'ecclésiastique incite Charlemagne à manger cette partie rebutante du fromage, une partie qui constitue la spécificité du fromage et qui distingue les ignorants des connaisseurs. Les connaisseurs inscrivent ainsi leur identité de mangeurs à la fois dans une longue tradition locale ou régionale et en se réclamant du précédent que constitue l'échange entre un ecclésiastique du cru et un empereur étranger. Le mode de dégustation du fromage et son existence même, qui sont inséparables, sont légitimés par leur ancienneté et par la supériorité accordée au consommateur local sur l'ignorant qui doit être initié aux arcanes du produit. Enfin, on notera que ces deux légendes portent sur des fromages singuliers qui n'ont pas vraiment de concurrents identitaires dans leur région. Le Brie porte le nom même de la province dont il est issu, et tout comme le Roquefort, il en est la seule véritable spécialité culinaire, en particulier le seul fromage, effectivement mis en avant dans le discours touristique, voire dans le discours régionaliste. Alors commençons par le mythe d'origine du Brie. Dans la plupart des versions qu'on peut lire en ligne, Charlemagne aurait goûté pour la première fois ce fromage à l'abbaye de Reuil-en-Brie ou dans une abbaye anonyme de la même région, c'est-à-dire l'actuel département de la Seine-et-Marne. D'abord dégoûté par l'apparence du fromage, dont il enlevait la croûte, il aurait été incité par l'abbé à manger l'intégralité du morceau et en aurait été ravi. Une date est parfois donnée, comme sur ce site, 774, à son retour d'Italie. Le détail est plaisant, anachronique évidemment, parce que ça suppose qu'il y ait une capitale à Paris. Pour rentrer d'Italie en passant par la Seine-et-Marne, il faut que ce soit Paris le centre, ce qui est anachronique pour l'époque carolingienne. Enfin bon, à son retour d'Italie, il aurait goûté ce fromage. La première mention de cette histoire, qui circule abondamment sur la toile, est difficile à dater. Un article écrit en 1918 par l'érudit Georges Gassy dans la Revue des études anciennes, rien de moins, est le plus ancien que j'ai pu identifier dans ce sens, mais il est possible que le rapprochement ait déjà été fait auparavant. En tout cas, Georges Gassy décortique soigneusement un récit carolingien sur lequel je vais revenir, et il en déduit que Charlemagne a bien goûté et apprécié un fromage, fromage qu'il identifie précisément comme un Brie de Meaux. La date et l'épisode sont repris dans le très officiel Oxford Companion to Cheese, paru en 2016. Le Roquefort. Le mythe est très proche puisqu'il se fonde sur le même récit carolingien originel, sur lequel je reviendrai. On notera cependant que, comme dans le cas du Brie, l'histoire de Charlemagne et du Roquefort est un mythe d'origine parmi d'autres. Vous avez vu, pour le Brie, il y a plusieurs dates, plusieurs histoires. C'est la même chose pour le Roquefort. Les mythes concurrents existent. Pline l'Ancien et Charles VI sont plus souvent mobilisés pour l'histoire du Roquefort que ne l'est Charlemagne. Mais Charlemagne est quand même assez souvent associé au Roquefort. Des sites promotionnels, institutionnels, commerciaux désignent le Roquefort comme ici le fromage préféré, fromage favori de Charlemagne. Certains récits se font plus précis et mentionnent l'évêque d'Albi dans le Tarn ou celui de Vabre dans l'Aveyron. un évêque de Vabre à l'époque carolingienne, ça m'étonnerait, l'évêché a été fondé en 1316. Mais en tout cas, on évoque un passage dans le sud du Massif central, au retour d'une campagne en Espagne, cette fois-ci. Évidemment, la géographie doit être respectée. Mais l'histoire elle-même est en tout point identique. L'ecclésiastique incite Charlemagne, d'abord méfiant, à manger, non pas la croûte cette fois-ci, mais la partie bleue du fromage en apparence immangeable. L'empereur est ravi et il demande à l'ecclésiastique de lui faire livrer des fromages à Aix-la-Chapelle. Ici encore, le rapprochement entre le récit carolingien originel et le fromage Rouerga est difficile à dater. Mais on voit apparaître cette histoire sous la plume du célèbre écrivain et conteur auvergnat Henri Pourrat, qui est mort en 1959, et qui rapporte une histoire dont on notera qu'il ne la présente pas comme historique. Pourrat se garde bien de dire que c'est un épisode réellement historique. Les hommes du Rouergue disent, voilà, ceux de Roquefort racontent que, retournant du Mont-Pyrénées, Charlemagne passa par chez eux, il vint faire la couchée chez leur évêque, l'évêque de Vabre, c'était un jour maigre, l'évêque n'eut à servir que du fromage, mais du fromage bleu, Charlemagne n'en avait jamais mangé, il en mangea, laissant de côté ce bleu qu'il croyait une moisissure, sur le conseil de l'évêque, il y goûta pourtant, « Alors, évêque, je te donne une de mes métairies, à charge pour toi de m'envoyer chaque année dans mon palais d'Aix-la-Chapelle deux caisses de ce diantre de fromage, qu'il ait du bleu surtout. » Il est difficile de dire, a priori, ce que cette histoire, sous la forme que lui donne Pourrat, devait à la tradition orale locale ou à l'adaptation plaisante, par l'auteur lui-même ou par l'un de ses informateurs, qui sont nombreux, d'une source écrite. Cette source écrite, c'est un récit carolingien. L'auteur ultime de l'anecdote est parfois cité sur les sites promotionnels, dans un cas, le Brie, comme dans l'autre, le Roquefort. Quand il est identifié, il est généralement identifié à Éginard, moine de Saint-Gall. Vous avez ici le site d'une fromagerie, et vous voyez en haut, Éginard, qui fut l'historien et secrétaire de Charlemagne, rapporte des anecdotes, etc. Voilà. Et il est souvent identifié à Éginard, moine de Saint-Gall, ce qui est impossible, puisque Éginard, biographe de Charlemagne, n'a jamais été moine à Saint-Gall, premièrement, et d'autre part, absolument rien dans l'œuvre d'Éginard ne correspond à un tel épisode. Ni histoire de fromage, ni passage dans la Seine-et-Marne, dans le Tarn ou dans l'Aveyron. Alors on ne prête qu'aux riches, évidemment, c'est naturellement à Éginard que l'on a prêté la paternité de ce récit, mais elle ne lui revient pas. Le responsable de l'affaire, c'est Notker de Saint-Gall, un auteur qui, un demi-siècle à peu près après Éginard, c'est-à-dire dans les années 880, a écrit lui aussi une biographie de Charlemagne. Biographie bien différente de celle de son prédécesseur. Notker est l'auteur des Gesta Caroli Magni, l'histoire de Charles le Grand, de Charlemagne, œuvre biographique beaucoup moins appréciée des historiens que celle d'Éginard. Elle est composée à la fin du IXe siècle, environ 70 ans après la mort de l'empereur, et elle ne répond absolument pas aux critères de fiabilité et d'historicité qu'affectionnent les historiens soucieux de mettre en œuvre une saine critique des sources. Les Gesta Caroli sont dédiés à l'empereur Charles le Gros, mort en 888, arrière-petit-fils de Charlemagne, dernier souverain carolingien à rassembler l'intégralité des territoires qui avaient appartenu à son ancêtre. Elles sont une collection, probablement inachevée, d'anecdotes sans véritable unité, qui témoignent du processus entamé dès le début du IXe siècle, processus qui était en train de transformer le Charlemagne de l'histoire en l'empereur à la barbe fleurie des épopées. Le Charlemagne de Notker est déjà une figure légendaire, parée de toutes les vertus. C'est un modèle aussi pour les souverains de son temps, et en premier lieu pour Charles Le Gros. C'est le but principal de l'auteur, fournir des modèles de comportement. Alors l'épisode est rapporté au livre 1, chapitre 15, et il ne doit pas être lu comme reflétant une action réelle et historique de Charlemagne, mais plutôt comme un exemplum politique destiné à illustrer le bon comportement royal et impérial face à la nourriture et face à un évêque. Je vous propose de le lire en gardant en mémoire cette clé de lecture, mais aussi en cherchant, évidemment, à identifier le fromage dont il est question. Au cours de ce même voyage, voyage dont on ne sait pas où il a lieu, hein, il n'y a pas de lieu indiqué, Charlemagne, arriva un jour à l'improviste chez un certain évêque, installé en un lieu qu'il ne pouvait éviter. Parce que ce jour-là était le sixième jour de la semaine, c'est-à-dire le vendredi, il ne voulait manger ni chair de quadrupède, ni chair d'oiseau. Or, en raison des possibilités mêmes de l'endroit, ce pontife ne pouvait se procurer immédiatement du poisson. Il lui fit donc servir un excellent fromage blanc de graisse. Or, Charles, toujours très modéré et prêt à toute chose, épargna toute honte au prélat et ne demanda rien d'autre. Il prit un couteau et, enlevant le moisi, je reviendrai sur ce mot, qui lui semblait répugnant, il se nourrissait du blanc du fromage. Mais l'évêque, qui se tenait près de lui à la manière d'un serviteur, s'avança et lui dit « Pourquoi fais-tu cela, sire empereur ? En vérité, ce que tu jettes, c'est le meilleur. » Et Charles, qui ne savait pas mentir et n'imaginait pas que quiconque pût lui mentir, se laissa persuader par l'évêque. Il mit dans sa bouche un morceau de ce moisi, le mâcha lentement et l'avala comme du beurre. Approuvant le conseil de l'évêque, il dit alors « Cher hôte, tu as dit la vérité ». Puis il ajouta « Chaque année, ne manque pas de m'envoyer à Aix-la-Chapelle deux charrettes pleines de fromage de cette sorte ». Face à l'impossibilité d'une telle chose, l'évêque fut consterné et se crut en danger de perdre à la fois son rang et son ministère. Il lui répondit alors « Sire, je peux me procurer les fromages, mais je ne sais pas lesquels sont de cette sorte et lesquels sont différents. Je crains donc d'apparaître indigne de votre confiance. » Alors Charles, qui ne fuyait ni n'esquivait jamais ce qui était étrange ou inhabituel, dit à l'évêque, qui semblait ne rien savoir de ces choses parmi lesquelles il avait pourtant grandi, « Couplez par le milieu ceux que tu auras sélectionnés, reformez-les avec des pics en bois, mets-les dans une boîte et envoie-les-moi. Quant aux autres, garde-les pour toi, ton clergé et ta maisonnée. » Cela fut fait, deux années de suite, pendant lesquelles le roi donna l'ordre d'accepter ses présents sans en accuser réception. Mais la troisième année, l'évêque vint et eut soin d'apporter lui-même ce qui lui avait demandé tant d'efforts et de temps à rassembler. Alors Charles, le très équitable, eut pitié de ses soucis et de ses efforts. Il donna à cet évêché un très bon domaine, apte à fournir des grains et du vin à l'évêque et à ses successeurs pour leurs propres besoins et ceux de leur entourage. Vous voyez comment Henri Pourrat a pu transformer ce récit en le faisant de manière plaisante, en faisant un récit populaire. Mais c'est pas du tout un récit populaire au départ, c'est un récit très savant chez un auteur carolingien écrivant en latin. Alors de quel fromage est-il question ? Rien dans la description du fromage ne nous permet de déterminer avec certitude de quel type de produit il s'agit. Il est décrit comme blanc, canum, en raison de son caractère gras, ex pinguedine, ce qui peut s'appliquer évidemment à beaucoup de productions, coulante et crémeuse comme le brie ou fondante et suintante comme le roquefort. Il comporte deux parties, un albor, une partie blanche, et une erugo, que j'ai traduit ici par moisi, qui est d'une autre couleur, donc. Le mot erugo, en latin classique aerugo, désigne à l'origine le vert de gris. Une rouille du cuivre dont les tons vont du vert au gris, précisément. Il peut donc, à mon sens, se référer aussi bien à une croûte fleurie, croûte grisâtre, voire blanchâtre, comme sur un brie, qu'à une moisissure bleu-vert, comme dans un fromage bleu. L'auteur emploie bien ce terme pour parler donc du moisi d'un fromage affiné, qu'il oppose à la partie blanche, mais il est impossible d'en dire plus. Le fait de couper le produit en deux pour vérifier sa qualité convient à la plupart des fromages de grande taille. La pratique est bien attestée pour le brie, qui, comme le notait déjà Gassi, se vend souvent par quart ou par moitié. Mais, comme l'a observé Andrew Dalby, il est aussi nécessaire de couper en deux un fromage accidentellement persillé, comme le bleu de Termignon, afin de vérifier si la moisissure s'est bien développée. Avant le développement tardif des actuelles techniques d'affinage du Roquefort et de la plupart des autres bleus, la moisissure verte pouvait ou non se développer comme dans des bleus de ce type. Mais ce qu'on appelle parfois des artisons, comme dans un Cantal vieux, peut aussi apparaître comme une rouille qui ronge le fromage. C'est tout à fait possible aussi de l'identifier de cette manière-là. Donc, je ne sais pas de quel fromage il s'agit. En tout cas, ce récit ne peut être revendiqué ni par les producteurs de Brie, ni par ceux de Roquefort. Non seulement il ne permet pas d'identifier le type de fromage concerné, mais il n'est lié à aucune région. Comme beaucoup de récits qui tiennent de l'exemplum, l'épisode rapporté par Notker est presque entièrement dépourvu de date, de nom de lieu, de nom de personne. L'évêché est situé en un lieu où l'empereur ne pouvait pas ne pas passer. Ici s'arrêtent les précisions géographiques. Ça ne veut rien dire, évidemment. Charlemagne est le seul protagoniste nommé de cette histoire. Et Aix-la-Chapelle, sa capitale, est le seul toponyme cité. Donc en fait, l'exemplum concerne Charlemagne, pas la région où est fabriqué le fromage. Le but du moine de Saint-Gall n'est pas de nous renseigner sur les traditions fromagères du IXe siècle, et encore moins de souligner telle ou telle identité géographique. L'épisode a pour but de louer le comportement de l'empereur, sa piété. Il jeûne le vendredi, conformément aux exigences religieuses. Sa générosité. Il donne des terres à un évêché pauvre. Son empressement à suivre le conseil des évêques. Il écoute son hôte et se prête de bonne grâce à ce qui lui est recommandé. Son astuce et son intelligence politique. Charlemagne teste la fidélité et la constance de l'évêque en exigeant la livraison des fromages. Ce n'est donc pas une identité géographique qui est soulignée par le rapport à l'aliment, mais une identité religieuse, celle du bon chrétien, et politique, celle du bon souverain. En d'autres termes, Notker ne construit pas un mythe fromager, il construit un mythe impérial. Un autre trait du bon souverain chrétien, que le moine de Saint-Gall met en avant, à destination des princes de son temps, est une forme d'humilité et de modération. Toujours très modéré et prêt à toute chose, Charlemagne accepte de ne rien demander d'autre et de se contenter de ce que l'évêque, dont l'embarras est, vous l'avez vu plusieurs fois souligné par l'auteur, à ce que l'évêque lui sert en ce jour de jeûne. À la différence du poisson que l'évêque n'a pas pu se procurer et qui aurait constitué un mets à la fois licite, puisqu'on est vendredi, et digne de la table impériale, le fromage est un aliment qui apparaît comme modeste et quotidien. En acceptant de se contenter de fromage, Charlemagne apparaît dépourvu de toute vanité. Il semble bien, si l'on en croit cet auteur, qu'il n'était pas toujours aisé de se procurer une grande quantité de charrettes pleines de fromage de qualité supérieure. Dans bien des cas, il semble avoir été, en revanche, un aliment de qualité moyenne, et de statut relativement peu élevé. D'autres aliments, comme le pain et le vin, que fournit le domaine donné par l'empereur dans le récit, du pain et du vin, ou comme le beurre, dont l'empereur a plus l'habitude que du fromage, il mange le fromage comme du beurre, d'autres aliments apparaissent dans ce récit plus désirables, plus prestigieux que l'humble fromage, quelle que soit son origine géographique, qui est ici sans aucune importance. Je conclus. Au détour de cette anecdote plaisante, Notker de Saint-Gall nous révèle que le fromage était probablement, à l'époque carolingienne, un marqueur d'identité sociale. Se contenter de fromage, un jour de carême, ou un vendredi, signalait l'appartenance à un milieu relativement modeste. Relativement, la table d'un évêque, même pauvre, ça n'est pas celle d'un indigent. À la table des grands, en revanche, il fallait autre chose. Il fallait du poisson, du pain, du vin, du beurre, pour reprendre les aliments mentionnés dans ce seul texte. Seul Charlemagne, empereur plein de mansuétude et de modération, pouvait épargner à un évêque la honte de lui avoir servi un mets aussi simple. Seul Charlemagne pouvait lui pardonner un tel affront. Il ne l'a d'ailleurs fait qu'après lui avoir joué un bien mauvais tour et lui avoir appris une leçon. Même s'il est blanc et gras, même s'il contient une délicieuse érougeau, quel que soit le sens de ce mot, le fromage est l'habitant des humbles, on ne le sert pas seul à l'empereur. Je vous remercie.